je suis au cinéma du Grutti, précisément juste devant la porte des bureaux de Black Movie avec Kate Reddy et Maria Vlatsavik. J'ai bien dit. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve pour présenter cette 19e édition du festival Black Movie. Ça fait de nombreuses années que vous êtes à la tête, on vous connaît depuis longtemps. Cette année, vous avez intitulé ça « Vers l'infini et au-delà ». Pourquoi un tel intitulé pour cette édition ? L'infini, l'au-delà, qui veut parler ?
Il y a deux raisons, je pense. D'une part, on aime bien jouer avec les concepts. Et puis, pour ceux qui ont pris connaissance, qui ont vu notre visuel de cette année, c'est évidemment en raccord avec l'affiche, puisque sur l'affiche, on voit l'espace, puis on voit un trou noir. Donc, on peut imaginer qu'on passe à travers, en fait, cette dimension pour découvrir autre chose qu'il y a derrière. Puis, évidemment, pour nous, ça recoupe la façon qu'on a de programmer des films. Les films qu'on programme, on a envie que ça amène d'autres manières d'envisager le monde. Ça raconte des réalités qu'on ne connaît pas, qui sont celles de gens dans d'autres pays. Donc c'est aussi à ce titre-là, évidemment, c'est le contenu et le visuel.
Et c'est peut-être Maria. Aussi ce fait de s'approcher de l'inconnu, de quelque chose qu'on ne connaît pas, de ne pas en avoir peur et d'y aller plutôt que de se fermer à ça.
Ou d'être resté dans des préjugés.
Oui, voilà.
Alors, lors de la conférence de presse, chacune a présenté plusieurs sections. En amont, comment vous répartissez le travail, justement ? Est-ce que c'est en binôme ou est-ce que...
Non, ça ne dit rien du tout, en fait, de la façon dont on se répartit le travail. À chaque étape, en fait, on repointe les choses et on se répartit les choses. Là, en l'occurrence, pour la conférence de presse, ce qu'on avait à cœur de faire, c'était de faire une conférence de presse la plus fluide possible. Donc, sans trop d'aller-retour, sans trop d'interruptions. Donc, on a coupé en deux, en fait, la programmation. Mais en réalité, on travaille ensemble sur l'intégralité de ce qu'on programme depuis le tout début. C'est-à-dire qu'on visionne des films en parallèle. Quand l'une voit quelque chose qu'on trouve intéressant, ben on le signale à l'autre. Et puis on doit valider les deux un film pour qu'il soit programmé, pour qu'il soit à l'affiche de l'édition. Donc en fait, c'est vraiment un travail qu'on fait
en symbiose.
Et on est à chaque fois que l'une voit quelque chose ou pense à une idée, on le soumet à l'autre. Voilà, donc on arrive à se convaincre l'une l'autre parce qu'il y en a une qui tient... qui a une idée ou bien qui a à cœur de défendre quelque chose. Et voilà, c'est vraiment la réflexion entre nous deux pour chaque objet, mais même pour le visuel, même pour la manière dont on travaille, qu'il faut que les deux soient d'accord et qu'on avance. On n'est que deux, c'est super.
Et puis, lors de cette conférence, on a pu voir des sélections de films qui seront projetés dans plusieurs sections, dont certains, ça touche vraiment à la fois des genres formels, comme du contenu très différent.
C'est extrêmement varié cette année, c'est vrai. Bon, je pense que c'est un petit peu ce qu'on propose de manière, enfin, chaque année, qui est très diversifié. Mais c'est vrai que cette année, et probablement avec la diffusion des bandes annonces des films, ça permettait vraiment de se rendre compte à quel point l'offre était variée, puisque ça va d'un thriller de Hong Kong à un documentaire qui se déroule en République démocratique du Congo, intimiste, etc. Donc on est vraiment aux deux spectres de ce que le cinéma peut proposer, aussi bien en termes de moyens que de type de narration, que de longueur de film, que de problématiques abordées, puisqu'il y a aussi bien des problématiques extrêmement sérieuses et malheureusement graves pour un certain nombre d'entre elles. Je pense notamment aux violences faites aux femmes ou qui fait l'objet d'une des sections de cette édition, à des choses beaucoup plus légères et superflues qu'on peut présenter aussi. Donc on essaye vraiment, en fait, on ne décide pas en amont d'avoir vraiment, on ne fait pas des coches par genre, on a ci, on a ça. C'est vraiment par rapport à tout ce qu'on peut voir, on retient ce qui nous semble le meilleur. Et c'est sûr qu'on a vraiment envie de proposer des choses très variées.
Et on s'est rendu compte que spécialement cette année, que beaucoup de sujets effectivement très, très difficiles, avec vraiment des contenus, ont été traités d'une manière pas du tout démonstrative, premier degré, mais au contraire avec une générosité, peut-être qu'un très grand souffle, voilà, pour amener peut-être pour déplacer légèrement le côté problématique et lourd sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc c'est très bizarre de montrer un film qui dénonce quelque chose, amener quelque chose de constructif, une réflexion pour aller de l'avant. Et ça, c'était très présent cette année. C'est ce qui nous a d'ailleurs motivé à
faire dans
les choix de sections un peu plus de contenu que les autres années.
Alors, je pense par exemple à un extrait qui m'a beaucoup marqué parce que c'est à travers un personnage, maman colonel, qui a l'air assez truculent dans sa façon de parler, mais qui est une passionnara, une Che Guevara au féminin, qui défend à la fois les femmes qui ont subi des violences, mais aussi les enfants qui sont accusés de sorcellerie et qui subissent des choses terribles. Donc là, par exemple, on a à la fois un sujet quand même assez dramatique sur le plan sociologique, mais à travers une approche qui permet aux gens peut-être de vraiment se concentrer et de voir toute la dimension de ces fléaux.
Oui, bah c'est surtout grâce au personnage réel de cette femme, en fait. C'est sa personnalité qui permet de présenter finalement un sujet qui est très difficile, des réalités qui sont atroces, mais il y a quand même une touche extrêmement positive, parce que elle est tellement elle est tellement pugnace, elle est tellement convaincue qu'il faut faire quelque chose, qu'on peut faire quelque chose, surtout par rapport à la dimension énorme du problème. Elle ne se décourage pas, elle fait ce qu'elle peut à son échelle, elle essaie de convaincre toutes les personnes qu'elle peut autour d'elle de participer à ce combat et de lutter contre ses préjugés et de mettre en place quelque chose qui pourra exister sans elle aussi, puisqu'ensuite elle sait qu'elle va sans doute devoir travailler ailleurs. Et donc cette manière d'affronter en fait un problème aussi difficile, des problèmes aussi difficiles, c'est exemplaire et ça donne plutôt la pêche plutôt que ça ne décourage en fait. Ce qui est remarquable dans ce film, parce que c'est vrai que souvent les films qui dénoncent des situations très difficiles, on en sort évidemment attristé, découragé, voire désespéré. Là, c'est pas le cas, mais ça tient vraiment au choix et au fait qu'il ait trouvé ce personnage de maman colonel qui est extraordinaire.
Vraiment. Et qui va passer le flambeau, sans doute.
Qui a plein d'enfants, qui a plein de gens autour d'elle qui vont reprendre le relais, etc. C'est vraiment un film qui donne de l'espoir.
Ouais, c'est ça. On dit souvent que ce n'est qu'une goutte dans l'océan, mais en fait, l'océan est formé de gouttes, et sans ces gouttes, rien ne se ferait. Donc c'est vraiment... Enfin, elle participe complètement à une forme de reconstruction qui est par rapport aux problèmes là-bas, qui sont multiples. Mm-hmm. Que d'ailleurs, le réalisateur Dieudo Amadi s'évertue à filmer année après année. Il le fait extrêmement bien. C'est vraiment un génie en la matière. Donc voilà, c'est vraiment dans un sens de reconstruction.
Alors, vous avez plusieurs sections. Est-ce qu'on peut les aborder? Est-ce que l'une de vous deux, Maria, Kate, souhaite prendre la parole en premier?
Je peux commencer. L'ordre, on a donné un ordre à ces sections qui aurait pu être différent, mais c'est celui-là. La première section qui se subdivise en fait en deux, c'est la section mauvais genre. La première partie de cette section, ce sont des films qui ont été réalisés tout récemment. Mauvais genre parce que ce sont des films qui ont de près ou de loin un lien avec les problématiques queer. Donc ce qu'on entend par là, c'est des questions d'identité sexuelle, des questions de désir, quel est l'objet du désir, de relations amoureuses et sexuelles entre les gens. Et donc de manière extrêmement diversifiée, là aussi, on ne s'est pas du tout arrêté sur une problématique en particulier. Il y a par exemple le film Zay de Anaïta Ghazvinizadeh, la réalisatrice iranienne qui maintenant tourne aux États-Unis. On suit
une évolution de personne,
qui doit se déterminer en fait sur sa sexualité parce que c'est à l'aube de l'adolescence que ça se déroule. Et c'est un peu les derniers moments de cet entre-deux qu'on peut suivre. Donc là, il y a clairement la question de l'identité qui est posée. Et puis, ça peut aussi bien être, je ne sais pas, le film Taekwondo, par exemple, dans lequel un jeune homme gay se retrouve en vacances avec des jeunes hommes hétéros. Il est amoureux de l'un d'entre eux. Il ne sait pas trop s'il y a réciproque. Et pendant tout le film, en fait, il y a un jeu de séduction comme ça. On ne sait pas si ça va se terminer bien pour lui ou pas. C'est très joli, c'est très solaire comme film. Donc ça, c'est la partie récente de la section EV genre. Et puis on s'est dit, ça fait quand même des années qu'on passe des films entre guillemets queer, donc on va faire aussi une section rétrospective et on revient sur tous les films qu'on a programmés depuis les débuts du festival, il y a 19 éditions maintenant, qui ont eu trait à cette problématique. Et là, il y a des classiques du cinéma tout court, tels que I Don't Wanna Sleep Alone de Tsai Ming-liang ou encore Tropical Malady de Apichat Pongwerez et Takul. Donc ça, c'est une des sections importantes du festival. Je passe la parole à Maria pour la deuxième
section, sachant qu'il y en a 10, donc c'est le marathon. Dans la deuxième section, on l'a intitulée Les Résistantes, donc voilà, c'est par rapport à ça, ces personnalités hors normes et tenaces qui sont au cœur de ces films, ces films documentaires ou de fiction. À nouveau, c'est des films de provenance très diverses et de genres très différents, des moyens et des longs métrages. Là, on trouve aussi bien le film Kindil, qui est un film fantastique algérien, qui est visuellement extrêmement joli et très particulier. Il a une patte de couleur et de traitement de couleur qui est très particulier. Voilà, on rentre dans une histoire fantastique d'une femme qui se fait agresser et puis qui arrive à transformer son agression en quelque chose de très surprenant et de très vengeur. Voilà, c'est un conte, mais voilà, ça raconte quand même ce qui se passe maintenant. Le final de ce film, que je ne dévoilerai évidemment pas, fait référence à comment on traite maintenant les médias et les faits divers aussi. Donc, il y a tout ça dans un film court qui s'appelle Tindil, qui est toujours tout à fait flamboyant et étonnant. Et il y a par exemple un autre film, c'est Les Bienheureux de l'Algérienne aussi. Pour le coup, je cite deux films algériens, Sophia Djama, qui raconte. C'est un film très nostalgique et qui est extrêmement empreint. Enfin, moi, les rares fois que j'étais en Algérie, j'ai vraiment ressenti cette nostalgie et une espèce de douceur de vivre, et à la fois quelque chose de très violent. C'est très ambigu, mais c'est, personnellement, je trouve ça très touchant. Et voilà, c'est une famille bourgeoise installée. C'est un peu à la fin des années de plomb de la guerre civile. Et chacun a fait son chemin pendant cette guerre-là et a fait des choix plus ou moins, a fait énormément de compromis. Et on sent un peu la situation où chacun s'est cristallisé, s'est figé. Puis la femme, elle souhaiterait partir. Et comme elle ne part pas vraiment, donc elle souhaiterait que son fils parte pour qu'elle ait plus de chance. Le fils, il dit bah non, moi je suis très bien ici avec mes potes, je n'ai pas forcément envie de partir. Le mari, qui a fait plein de compromis, il dit bah non, mais il a enfin trouvé le repos, donc il mérite rester. Et c'est toutes ces discussions-là, pas mal centrées quand même autour du personnage principal féminin, qui est magnifiquement interprété, qui elle, qui a aussi perdu pendant toutes ces années, elle a perdu toutes ses illusions, tous ses espoirs, et a eu un refermement très fort sur les conditions de la femme qui est perceptible aussi à travers ce film. Et j'ai cité deux films.
Ça va très bien. Bien sûr, après, je voulais qu'on revienne sur cette fameuse section à suivre, parce que ça, elle est très particulière à Black Movie, mais je vous laisse poursuivre, parce que ça va très bien.
Alors ensuite, il y a une section qu'on a intitulée Le salaire de la peur, c'est des films qui traitent de la question de la pénibilité du travail, surtout, dans différents endroits du monde et de différentes manières. Je pourrais citer, par exemple, le film City of the Sun, qui se passe en Géorgie, qui est un documentaire filmé vraiment à l'ancienne, un peu à l'ancienne, à la soviétique, c'est-à-dire dans toute la splendeur que ça peut signifier, avec des grands mouvements de caméra, des plans très larges, extrêmement bien composés, etc. C'est tellement bien filmé, d'ailleurs, qu'on a presque de la peine à croire qu'il s'agit d'un documentaire, mais c'est réel. Et on est dans une ancienne cité minière qui est en train de fermer, mais dans laquelle il y a encore des gens qui continuent de fonctionner, continuent de travailler comme si c'était encore...
immuable.
Comme si rien n'allait bouger. Et ils sont très peu nombreux, alors qu'ils étaient des dizaines de milliers, ils sont plus que quelques poignées. Et on les suit comme ça dans leur quotidien, dans ce qu'ils font aussi à côté du travail. Il y a deux jeunes femmes qui font de l'athlétisme, il y a un type qui anime un groupe de musique. Et on est vraiment dans un site qui est un vestige de ce qu'a pu être l'Union soviétique, et c'est un film qui est remarquable pour montrer ce décalage-là. Donc ça, c'est Le salaire de la peur. Ensuite, il y a une section qui est liée au rapport entre père et fils, les rapports problématiques, plus généralement, donc vraiment spécifiquement père et fils. Et là, je citerai, par exemple... le film Scaffolding, qui est un film israélien, il est très particulier parce que c'est assez rare que les films israéliens parlent des personnages qui viennent plutôt de la classe ouvrière. En général, c'est plutôt des bourgeois qu'on nous montre au cinéma. Donc là, il s'agit d'un petit entrepreneur qui a une entreprise d'échafaudage et de son fils. Et la maman n'est plus là, et c'est les difficultés qu'ils ont, puisque le père veut évidemment que son fils reprenne l'entreprise familiale. Le fils, lui, il est un petit peu curieux, il tient pas en place, en plus il est très nerveux, et il a un peu des velléités de s'intéresser à d'autres choses, et notamment il a un prof à l'école de littérature qui l'inspire pas mal, donc il est un peu tenté par la poésie, alors qu'il est quasiment analphabète, et donc c'est ce conflit dans lequel il se trouve entre son père qui souhaiterait le voir reprendre le flambeau, et le savoir et l'inconnu, et peut-être le fait de toucher à autre chose que ce à quoi il était a priori destiné, qui est décrit dans ce film. Ça décrit assez bien les films dans cette section, parce qu'il y a tout le temps ces
conflits de loyauté,
ces pères qui étaient absents qui réapparaissent, enfin, c'est toutes ces questions-là.
Nous avons une section qui s'appelle Sympathy for Mr. Vengeance, qui font référence évidemment avec des films plutôt de genre. Œil pour œil, dent pour dent, c'est vraiment là un peu la loi du talion qui est appliquée dans pas mal de films. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on a regroupé ces films. Il y en avait pas mal cette année. C'était pas forcément que des films de genre très extrêmes, même si il y en a deux, je pense, il y en a deux qui sont un peu au-delà de la moyenne. Des films qui racontent des vraies histoires extrêmement bien narrées. Et je citerai Agi, c'est un film indien. qui est à cheval sur un film de genre. Ça pourrait presque faire penser à un film muet, colorié à la main, tellement l'expression des personnes est exacerbée, puis tellement l'histoire est racontée comme ça, par palier, puis chaque fois un peu des scènes et des lieux et des endroits. Et c'est une grand-mère qui s'évertue à venger le viol de sa petite fille. Et voilà, parce que rien ne se fait vraiment comme elle souhaiterait, et puis que les personnes sont connues, mais rien ne se fait, que tout le monde devient de plus en plus complice, et puis finalement, ce qu'on demande à cette famille, qui est très pauvre, c'est d'oublier tout ça, et puis, parce que c'est comme ça. Et voilà, elle s'évertue à prendre un chemin un peu de traverse, et c'est à la fois très, très mystérieux, c'est presque un peu drôle par sa forme un peu très exagérée, et évidemment, le fond est grave, parce que c'est une vraie problématique en Inde.
Et c'est raisonnable, ce qui vient de se passer, les émeutes, là, au Pakistan. Ces jours-ci, d'ailleurs.
Voilà. Enfin, on entend régulièrement, voilà, il y a ces choses qui commencent à sortir. Enfin, les personnes sortent dans la rue aussi. Et du coup, c'est des questions qui sont souvent abordées, mais encore très peu au cinéma. Enfin, justement, c'est pour ça que c'était un film assez particulier venant de l'Inde. Et un autre film complètement différent d'Anne Escape Holland, qui raconte l'histoire d'une femme qui a une grand-mère indigne et voilà qui vit dans une très belle maison au plein milieu de la forêt dans un petit village et il y a toute la communauté du village avec ses petites lois, ses petites règles, ses petites habitudes et elle commence à prendre fait et cause pour les animaux qui sont abattus par des braconneurs notamment. On trouve aussi des personnes décédées donc on ne sait pas très bien qui fait quoi, comment et quel lien ça a avec elle. Et voilà, on plonge vraiment dans un univers très différent qui est dans une campagne sublime. Enfin, c'est extrêmement bien filmé. C'est vraiment, au niveau cinématographique, on est de nouveau complètement ailleurs. Et on suit ce personnage tout à fait atypique et fort sympathique. Et une autre grande section, à suivre.
Alors, à suivre, parce que pour moi, c'est vraiment la signature de Black Movie. Oui. Et je crois que c'est une section qui remporte énormément d'intérêt et de succès de la part du public qui est fidélisé par cette section.
Ben on espère, parce que comme c'est effectivement la section phare, et puis c'est des réalisateurs qu'on suit pour certains d'entre eux depuis presque 20 ans, presque. Mmh. Hein. Je veux dire, Aung San Suu, le premier Aung San Suu qu'on a passé, c'était en 2001, si je ne me trompe pas. Et donc ça fait 18 ans qu'on passe ces films chaque année, parce que c'est quelqu'un qui fait des films chaque année, même des fois plusieurs par année, par exemple. Donc c'est vrai que le public, je pense, aime bien le fait de pouvoir retrouver comme ça, d'édition en édition, les nouvelles œuvres de ces réalisateurs. Et puis c'est vrai que ce qui est extrêmement chouette de l'autre côté, du côté des cinéastes, c'est que quand ils viennent, pour ceux qui viennent, puisqu'il y en a un certain nombre qui viennent présenter leurs films ici, quand ils rencontrent le public à Black Movie, ils sont ravis, parce qu'ils ont affaire à un public qui a vu tous leurs films ou qui a vu un certain nombre de leurs films. Donc dans les discussions qu'ils peuvent avoir avec le public, c'est une discussion qui est nourrie de l'ensemble de leur filmographie et pas uniquement du dernier objet qu'ils viennent présenter, ce qui est une preuve, effectivement, qu'il y a un vrai succès au niveau du public pour cette section.
Fidélisation.
Une vraie fidélisation. Ouais.
Et aussi, enfin, là où nous, on est aussi très, très satisfaites dans les choix souvent de ces réalisateurs, c'est que c'est des personnes qui souvent, au fil des années, obtiennent des reconnaissances incroyables dans d'autres festivals et dans des festivals prestigieux. Voilà, Aung San Suu qui était un parfait inconnu il y a fort longtemps, entre-temps et régulièrement à Cannes, et on le retrouve aussi à Rotterdam et ailleurs, il gagne des prix prestigieux. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose où on se dit, tiens, on a quand même pioché, enfin pas pioché, c'est peut-être pas le bon terme, on a eu du nez, du flair. Voilà.
J'ose difficilement aborder
ça. Je me permets de faire cette blague, oui, voilà. Parce que comme ça, elle est faite.
On précise pour les auditeurs que Kate a eu un petit souci au niveau nasal.
Exactement, une petite chute, ouais.
Voilà. Et donc voilà, ça c'est aussi une satisfaction personnelle de voir qu'on arrive à suivre des personnes et que c'est des gens vraiment qu'on suit. Et du coup, forcément, le nombre de réalisateurs qu'on suit, vu que chaque année il y en a un ou deux qui se rajoutent, il s'agrandit, mais du coup on peut de nouveau continuer à proposer le meilleur du meilleur et à notre très humble avis et en toute subjectivité.
Il y aura parmi toutes ces sections énormément de rencontres possibles avec le public. De nombreuses personnalités seront présentes. Vous pouvez nous en parler.
Mais alors, il y a à peu près 25 réalisateurs présents en fait pendant cette édition. Je prends une petite liste parce qu'ils sont fort nombreux. Donc, on essaie vraiment d'avoir le plus de cinéastes possibles qui viennent présenter leurs films. On sait que c'est un festival, c'est aussi ça, c'est le plus d'un festival par rapport à une séance de cinéma ordinaire, on dira, c'est que d'une part, bah, les gens viennent voir des films de manière plus concentrée, en général, ils viennent quand même voir plusieurs films, tout d'un coup, ils décident de consacrer une partie de leur temps au fait de voir des films, mais c'est aussi évidemment tout ce qui vient avec, et notamment le fait de pouvoir discuter avec un cinéaste à l'issue d'une projection, pouvoir immédiatement lui poser les questions qui sont peut-être venues à quelqu'un pendant le visionnement d'un film, ou en tout cas le voir, simplement voir à qui on a affaire, l'entendre, parler de son travail, expliquer comment il s'y est pris. Et ça, évidemment, ce sont des aspects qui enrichissent complètement la projection. Et donc, dans le cas de quasi un film sur deux, presque de la section, des sections de Black Movie, c'est pas le cas du petit Black Movie, mais en tout cas pour les films pour adultes, il y a le cinéaste qui va être là en fait. Alors après, les gens peuvent les rencontrer à l'issue des projections, et puis comme ils circulent dans le festival et que c'est un festival qui a une taille conviviale, ils peuvent également les croiser à d'autres moments, au moment où ils prennent leur repas, pendant les soirées, à l'apéritif. Et donc c'est vrai que toujours, à chaque édition, se nouent des liens comme ça entre des spectateurs et des cinéastes. Et c'est merveilleux d'assister à ça, en fait, parce que c'est vraiment un peu... Black Movie, c'est un peu un écrin pour ce type de rencontres, je dirais, un peu privilégiées, et qui font vraiment le bonheur à la fois du public, mais aussi des invités qui nous disent chaque année à quel point c'était agréable pour eux d'être dans un festival à dimension justement humaine. Ce qui est quelque chose qu'on cherche à tout prix à préserver et à faciliter.
Et quand ils reviennent, ils sont super contents de revenir.
c'est sûr. Ok, Maria, vous pouvez nous donner quelques noms?
Oui, alors il y aura dans les noms plus connus pour les gens qui connaissent bien le cinéma d'auteur, il y a Sharounas Bartas notamment qui vient. Il y a Sophie Adjama, dont parlait tout à l'heure Maria, qui vient présenter les Bienheureux. Il y a une réalisatrice haïtienne, ça risque d'être très intéressant, Jessica Genéus, qui vient présenter un film qui s'appelle Le jour se lèvera, et qui donnera lieu à une table ronde autour des... puisque c'est les questions qu'elle aborde dans son film. Est-ce que la religion est une cause ou un remède aux maladies psychiques? Puisque c'est dans son film, elle constate en fait que plusieurs membres de sa famille, notamment des femmes, ont eu des troubles psychiques ou psychiatriques importants, et que c'est un pays qui est sous une tension au niveau culturel, ce clash qu'il y a eu entre une culture plus traditionnelle et l'arrivée du protestantisme, et voir si de cette friction, de cette tension et le vaudou, est-ce qu'il y a un lien avec ce qui leur est arrivé par la suite. Donc c'est ce qu'elle aborde dans son film, et c'est ce qui fera l'objet d'une table ronde, puisque les réalisateurs qui viennent participent parfois aussi à des tables rondes. Il y a les Joao, nous on les appelle les Joao, João Rui Guerra de Mata et João Pedro Rodrigues, qui sont deux réalisateurs portugais qui viennent quasi chaque année maintenant depuis 4 ans. Ils étaient lauréats du prix de la critique l'année dernière avec l'ornithologue. Et là, cette année, deux de leurs films, il s'agit de O Fantasma et Que Arde Cura, font partie de la sélection rétrospective queer. Donc voilà, je peux en citer beaucoup. Alors, d'autres.
Serait peut-être encore juste Dang Miaoyan, qui est aussi venu régulièrement au festival, qui est ce réalisateur chinois qui vient avec Silent Miss, un réalisateur qu'on a conçu depuis ses débuts, puis c'était des films qui étaient faits avec 3 000 francs, 4 000 dollars au début, en catimini. Il disait vraiment, c'est un monsieur extrêmement discret, il travaille très discrètement, et pour cause, parce qu'il aborde des sujets totalement interdits.
Et très artiste.
Oui, très artiste, parce qu'il est par ailleurs, il est peintre, il fait de la peinture traditionnelle chinoise. Et c'est du coup, on a aussi compris visuellement comment il travaille, parce que c'est
pictural.
C'est extrêmement pictural. On pourrait faire un tableau de chaque plan. Et il travaille seulement des plans, c'est extrêmement découpé, c'est très soigneusement éclairé, même si c'est sombre, mais c'est vraiment, il travaille beaucoup avec la lumière et les noirs blancs. Et voilà, il aborde des questions très difficiles. Silent Mist parle d'un fait divers qui a existé en Chine. C'est-à-dire aussi de nouveau une histoire de violence à l'encontre de jeunes filles, où les personnes du village connaissaient les auteurs, mais ils peinaient beaucoup à aller jusqu'au bout du processus. Enfin, de
l'enquête.
Que ces personnes soient vraiment jugées et punies. Le plus simple, c'était que tout le monde oublie. Et au contraire, elles étaient discriminées parce qu'elles étaient du coup porteuses d'un tabou, puis qu'elles jetaient le déshonneur sur la famille. C'est la famille de la victime qui subissait le déshonneur et non la personne en face. Et voilà, donc lui va revenir aussi, puis c'est aussi quelqu'un qu'on chérit particulièrement parce que c'est un cinéaste extraordinaire.
Et puis évidemment, dans ceux qui reviennent, il y a Anaïta Ghazvinizadeh, donc la réalisatrice iranienne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait le film Veil, et Bernie Goldblatt, qui vient présenter Walaï, mais qui est aussi porteur du projet du Ciné Gimbi qu'on soutient depuis très longtemps au Burkina Faso, qui vise à faire exister à nouveau une salle de cinéma. Le projet, le chantier avance, puisque la première salle est en chantier, en cours de construction actuellement. Et donc, il y a d'une part le fait qu'il vient présenter Walaï, d'autre part, il est producteur, coproducteur du film Vivre riche de Joël Acafou. Et la présence de ces deux réalisateurs va donner lieu à une rencontre autour de, justement, est-ce que la question de savoir si le ciné Gimbi, quelle place il peut avoir dans le paysage du cinéma burkinabé dès qu'il sera fini, puisque comme il y a peu de salles de cinéma dans cette partie, dans ce pays et dans cette partie du monde de manière générale, il peut servir un peu de point de ralliement et de point de rencontre, de point de convergence pour une partie du cinéma africain. Et donc c'est ces questions-là en fait qu'on abordera en parallèle du fait qu'il vient présenter ses films. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 25.
On peut pas tous les 25, citer.
On va pas non. tous les citer.
Mais pour revenir juste à Bernie Goldblatt, je me permets d'ajouter que s'il arrive justement à faire comprendre l'importance de faire revivre cette salle de cinéma, d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, entre autres, ont décidé de s'en inspirer pour faire revivre les salles de cinéma en Afrique. Et puis pour couper un peu court à l'utilisation, au recours tout le temps des DVD, les gens ne voyaient plus que les films en DVD.
Absolument.
Il y a le mouvement des DVD qui est une espèce d'économie parallèle de vidéos, de cinéma.
DVD souvent piraté, bien sûr.
Totalement piraté, quasi que piraté. Mais du coup, c'est devenu un peu la norme chez les jeunes. C'était une famille qui montrait le DVD dans une cour, et puis du coup, toute la rue était courant, ils venaient voir le film. Mais c'est clair, il n'y a pas forcément l'éducation qui est faite aux plus jeunes personnes, comme voilà l'histoire des droits d'auteur et tout ça. Tout ça, Bernie veut aussi le traiter dans sa salle de cinéma. Il veut faire un lieu d'apprentissage assez conséquent. Il veut vraiment intégrer des jeunes dans la formation critique, les questions de droits d'auteur. Et c'est vrai que son initiative a déjà donné lieu à d'autres initiatives dans les pays périphériques, aussi pour contrer quelque chose qui se passe par ailleurs, c'est que par exemple l'État français implante des salles de cinéma un peu partout. Mais voilà, après, pour aussi passer des films selon certains critères plutôt français, ce sont des salles de cinéma qui ne rencontrent pas forcément de succès parce qu'ils
ne sont pas implantés, justement.
Ils sont un peu décidés. Voilà, genre, on va mettre il y avait cet exemple hallucinant d'une salle de cinéma qui a été construite dans une cour d'une grande université. Sauf que l'université fermait pendant 3 mois, puis que du coup, le cinéma n'était pas accessible. Enfin, il y a ce genre de paradoxes qui peuvent se passer. Et puis le projet de Bernie Goldblatt, lui, c'est vraiment, il vient du terrain, de la connaissance du terrain, parce qu'il habite là-bas. Et puis que toutes les discussions qui sont faites autour de la salle de cinéma, comme il veut intégrer les femmes du marché qui ont dû se déplacer pour la construction. Et il veut refaire un espace, un poumon cinématographique extrêmement ouvert, et il travaille avec toutes les entités concernées.
Puis ressusciter certaines salles qui ont été transformées ou qui sont en voie d'être transformées en centres commerciaux, par exemple.
Ou en église. Voilà. C'est un peu les deux possibilités.
Comme la voix de Dieu, qu'il soit commercial ou pas.
Quoi. Exactement.
Je vais avoir des problèmes en sortant.
La voix de Dieu. Mais... Je sais pas de qui vous parlez.
Et pour revenir à Black Movie, j'ai vu que vous avez de nouveaux partenariats. Oui. Vous avez parlé de Rotterdam, bien sûr, mais vous avez encore pu concrétiser d'autres partenariats. Ça a élargi la palette des possibilités.
Alors, c'est sûr que chaque nouveau partenaire, c'est une excellente chose pour nous. Ça permet d'obtenir des moyens supplémentaires, que ce soit des échanges de services. Par exemple, on a un nouveau partenaire pour le prix du public cette année, qui est Infomaniac, qui est aussi notre pourvoyeur d'accès à Internet. Donc, c'est clair que ce type de soutien, ou je pense à l'hôtel Métropole, par exemple, dans un tout autre style, qui nous offre quelques nuitées
pour les invités.
Chaque chose est importante, et c'est sûr qu'on est un festival qui fonctionne avec tout ce qu'on peut trouver, une juxtaposition de différents types de soutien plus ou moins important en valeur. C'est absolument indispensable à la survie et au renouvellement même. De notre manière de faire et de la vitalité, disons, d'un festival, je pense, se mesure aussi en termes de partenariat et de renouvellement de ces partenariats, bien sûr. Après, il faut quand même saluer les partenaires traditionnels du festival de longue date, parce que sans eux, je pense notamment à Boréal qui anime un café devant les salles de cinéma du Grutlic. Les festivaliers aiment beaucoup aussi, puisqu'ils ont souvent besoin quand même d'un petit café, d'un petit remontant.
Quand ils enchaînent les projections.
Voilà, quand ils enchaînent les projections, des fois, ça aide quand même pas mal. Et donc, ça, c'est super, super que ce partenariat puisse perdurer de cette manière-là. Ou je pense aussi aux subventionnaires qui nous soutiennent depuis des années. Maintenant, particulièrement la ville de Genève, depuis le désenchevêtrement. Et ça, c'est évidemment, sans ces soutiens-là, on n'existe tout simplement pas du tout. Donc, on est très reconnaissant de cette fidélité.
Il y a une partie intéressante, peut-être moins visible que dans ces partenariats, c'est que ça amène forcément une communication différente, une visibilité différente ailleurs, et du coup, des publics différents qui viennent au festival et qui découlent le festival. Et donc, dans ce renouvellement-là, c'est très important et très intéressant d'avoir, de diversifier les partenariats, puis d'en intégrer des jeunes nouveaux et de voir qu'est-ce que ça amène comme nouveaux spectateurs et nouvelles mélange de spectateurs par rapport à quelque chose qui est déjà connu et établi.
Vous êtes des femmes très sollicitées, Maria et Kate. Donc malheureusement, il y a toute une foule, une cohue qui vous attend. Rapidement, en trois mots, le petit Black Movie pour les enfants et puis votre mascotte qu'on a eu la joie de découvrir.
Absolument. Alors, le petit Black Movie, c'est 44 films, donc 41 courts-métrages, 2 moyens-métrages, 1 long-métrage. Et puis, ce sont des ateliers, puisque donc, les films, c'est des magnifiques films d'animation, hein, en deux mots, qui s'adressent aux tout petits comme aux moins petits, et qui présentent des formes un petit peu différentes de celles qu'ils ont l'habitude, auxquelles ils ont habituellement accès, que ce soit à la télévision ou même au cinéma. Donc des films beaucoup plus faits main, beaucoup plus simples au niveau des moyens, avec des sujets peut-être un petit peu plus, qui vont un peu plus loin aussi que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc ça leur permet aussi de découvrir des réalités d'enfants dans d'autres pays. Je pense au programme Enfance notamment, où on suit des enfants dans l'Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et puis c'est des ateliers, puisque évidemment le petit Black Movie, c'est aussi toujours le fait de permettre aux enfants de voir comment un film se fabrique. Donc là, ils vont par exemple pouvoir faire une bande son dans un des ateliers, ils vont réaliser eux-mêmes un film d'animation, ils vont s'initier à une danse au nom un peu barbare que je ne pourrais pas vous redonner maintenant, le calligraphiat ou quelque chose de ce style. On imite la gestuelle des animaux.
Raita Onan.
Oui, non, voilà.
Mais enfin, bref, c'est voilà. Une danse indienne
donc,
qui...
Donc, c'est toutes ces activités-là qui sont proposées, en plus de toutes les activités non publiques, puisque le petit Black Movie est très présent dans les crèches, est très présent dans les séances scolaires. On propose des ateliers dans le parascolaire. Ça touche à peu près 9000 enfants dans le canton pour cette année écoulée, donc c'est pas à négliger.
La mascotte.
Et la mascotte, oui, c'est quelque chose dont on rêvait depuis longtemps et cette année nous l'avons fait.
Incarné.
Ah oui.
Ah oui, plus qu'un poilu. Très poilu. Très
pas
grand,
été
juste très
câlin. Hein,
voilà. Bon, il n'est pas nécessaire. Mais voilà, c'était un personnage, c'est notre invité spatial de cette année qui vient, enfin qui habite quelque part près du trou noir et qui vient rendre visite à la Terre pendant le
très
bienveillant. Qui est extrêmement bienveillant et puis qui...
Mais il souhaite bien être bien accueilli aussi.
Voilà,
je pense que ça va beaucoup dépendre de comment les gens réagissent à son apparition.
Est-ce qu'il va être présent aussi?
Alors, il va être présent, oui.
Dans le milieu du festival, donc il a un programme un peu chargé, mais il va faire des apparitions dans divers lieux, dans les séances pour enfants, évidemment, mais aussi au Xanadu, tardivement ou dans l'après-midi.
Le Xanadu, c'est notre lieu central et festif.
Voilà, et donc, il y aura tout à fait possibilité de le rencontrer et de converser avec lui.
Ou même de lui faire un câlin.
Voilà, et de partir main dans la main. Pas trop, peut-être. Enfin, ce sera à lui de décider.
Et à l'heure actuelle, de faire un selfie avec lui.
Oui,
ça,
bien sûr.
J'imagine. Il faut qu'on trouve le hashtag parfait, mais ce ne sera pas compliqué. Voilà. Ce sera moins de nos soucis.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Kate,
vous.
Maria. Et on se réjouit de découvrir cette 19e édition.
Merci.
Merci. Voilà, on y va.